Chapitre 25, où nos principaux personnages se décident à quitter Brighton. Dès son arrivée à Brighton, Dobbin fut conduit auprès des dames à l'hôtel de la marine. Jamais ce jeune officier ne se montra si jovial et si causeur, tant il faisait chaque jour de progrès dans l'art profond d'une hypocrite diplomatie. Il ne laissa rien paraître des sentiments qui l'agitaient pour mieux étudier Mrs. George Osborne dans sa nouvelle condition. Il ne voulait pas non plus qu'on pût s'apercevoir des appréhensions et des craintes que lui donnaient les mauvaises nouvelles dont il était porteur, et qui n'auraient pas manqué d'avoir sur Amelia le plus mauvais effet. « Mon opinion, mon cher George, avait-il dit à ce dernier, mon opinion est que l'empereur des Français va nous tomber sur les bras, infanterie et cavalerie, avant 3 semaines d'ici, et qu'entre le duc et lui, il va y avoir une danse auprès de laquelle les guerres de la péninsule ne sont que des jeux d'enfants. Mais c'est inutile à dire à Mrs. Osborne, savez-vous bien. Après tout, nous pourrions bien être dispensés de mettre la main à la pâte, et alors notre promenade en Belgique se terminerait par une simple occupation militaire. C'est une opinion du reste assez généralement répandue, et c'est à Bruxelles une procession de beau monde et de dames à la mode. » Il fut, en conséquence, arrêté entre les deux amis que l'expédition de l'armée anglaise en Belgique serait présentée à Amelia sous les couleurs les plus rassurantes. Les conjurés d'accord, l'hypocrite Dobbin s'avança vers Mrs. George Osborne avec un air de complet contentement. Il lui commença 2 ou 3 compliments sur les joies matrimoniales et resta en chemin de façon assez gauche, nous devons l'avouer, malgré l'estime que nous avons pour notre ami. La conversation tomba ensuite sur Brighton, l'air de la mer, les plaisirs de l'endroit, les beautés de la route, la douceur des coussins et la rapidité des chevaux de l'éclair. Amelia ouvrait de grands yeux. Rebecca paraissait beaucoup se divertir et observait le capitaine comme tous ceux avec qui elle se trouvait en rapport. La petite Amelia, pour le dire en passant, n'avait qu'une piètre opinion de l'ami de son mari, le capitaine Dobbin. Il bégayait, était un peu bonasse, un peu timide, fort emprunté et fort maladroit. Elle lui savait gré de son attachement pour Georges, sans toutefois lui en faire un trop grand mérite. D'ailleurs, qu'y avait-il d'étonnant qu'on aimât Georges, si bon, si généreux? Et ne faisait-il pas beaucoup pour son camarade en lui accordant son amitié? Plus d'une fois, Georges s'était amusé devant elle à contrefaire le bégaiement et la tournure maladroite de Dobbin. Toutefois, Georges ne parlait des qualités de son ami qu'avec le ton de la plus profonde estime. Dans les premières joies de son amour, pendant ses jours de triomphe, Amelia, se laissant tromper à l'écorce grossière du capitaine, faisait assez bon marché de l'honnête William. Le pauvre garçon savait parfaitement à quoi s'en tenir et se soumettait sans murmure à son sort. Un temps devait venir où, connaissant mieux Dobbin, elle changerait de sentiment à son égard. Mais ce temps était encore bien éloigné. Le capitaine Dobbin avait à peine passé 2 heures avec ces dames que Rebecca était déjà maîtresse de son secret. Elle éprouvait pour lui un sentiment de répulsion instinctive, de défiance secrète, et, de son côté, Dobbin n'avait pas conçu pour elle de grande sympathie. Il était trop honnête pour se laisser prendre aux artifices et aux cajoleries de l'enchanteresse. Il ne lui restait plus alors à son endroit qu'une aversion bien marquée. Rebecca, supérieure à toutes les autres faiblesses de son sexe, n'avait pu s'affranchir de ces inspirations jalouses qui sont un élément de la nature féminine, et elle en voulait beaucoup au capitaine de ses préférences pour Amelia. Mais, malgré ses froissements intérieurs, elle affectait envers lui des manières pleines d'égards et de cordialité. Un ami des Osborne, de ses chers bienfaiteurs, elle parlait bien haut de sa vive affection pour lui, et rappelait tous les détails de la nuit du Vauxhall, quitte à en faire des gorges chaudes tout en s'habillant avec son ami pour le dîner. Rodon Crowley daignait à peine faire attention à Dobbin. C'était pour lui un gros bêta, bonne patte d'homme au demeurant, mais dont l'ébauche était restée inachevée. Joss prenait avec lui des airs majestueux et protecteurs. Lorsque George et Dobbin se trouvèrent seuls dans la chambre de ce dernier, Dobbin tira de son nécessaire la lettre que M. Osborne lui avait fait remettre pour son fils. « Ce n'est pas là l'écriture de mon père, » s'écria Georges, tout alarmé. Il ne disait que trop vrai. La lettre était de l'homme d'affaires de M. Osborne. En voici le contenu. Bedford Row, 7 mai 1815. Monsieur, Je suis chargé par M. Osborne de vous informer qu'il reste inébranlable dans ses résolutions antérieures. Aussi, par suite du mariage que vous venez de contracter, il cesse de vous considérer dorénavant comme membre de sa famille. Sa détermination est définitive et formelle. Bien que les sommes dépensées à votre profit pendant votre minorité et les billets à vue que vous ne lui avez pas ménagés dans le cours de ces dernières années dépassent de beaucoup le montant de la somme à laquelle vous avez droit, à savoir le tiers de la fortune de feu Mrs. Osborne, fortune au partage de laquelle, par le décès de la dite dame, vous avez été appelé en concurrence avec Miss Jane Osborne et Miss Maria Frances Osborne, M. Osborne m'a chargé cependant de vous informer qu'il renonce à toute reprise sur vos biens et que la somme de 2 000 livres en 4% valeur courante et formant le tiers des 6 000 livres qui constituent la fortune de votre mère vous sera payée sur quittance à vous ou à votre chargé d'affaires. Votre très obéissant serviteur, Higgs. P.S. M. Osborne me prie de vous donner, pour la dernière fois, avis qu'il ne recevra aucun message, lettre ou communication de votre part sur ce sujet, pas plus que sur aucun autre. Voilà comme vous avez arrangé mes affaires, dit Georges, en lançant à Dobbin un regard fulminant. Tenez, lisez, Dobbin. Et il lui mit brusquement sous le nez la lettre de son père. Il ne me reste d'autre parti à prendre que de mendier. Beau résultat de ma stupidité chevaleresque. Aussi, qui diable nous poussait tant d'en finir? Nous pouvions attendre la fin de la guerre. Une balle m'aurait tiré d'embarras, comme c'est encore la plus sûre ressource qui me reste. Amy sera bien avancée quand elle se trouvera veuve d'un mendiant. Vous avez fait là un beau coup. Je vous conseille de vous en vanter. Mais vous avez eu ni repos ni cesse avant d'avoir consommé à la fois ma ruine et mon mariage. Que faire maintenant avec mes 2 000 livres sterling? Dans 2 ans, j'en aurai vu la fin. Depuis que nous sommes ici, Crowley m'a gagné aux cartes et au billard plus de 450 livres. Soyez tranquille, je vous chargerai de mes affaires à l'avenir. Le fait est que la situation est difficile, répondit Dobbin, dont la pâleur avait augmenté à mesure qu'il avançait dans la lecture de la lettre. Et comme vous dites, j'y entre bien pour quelque chose. Mais malgré cela, il y a encore des gens qui voudraient se mettre à votre place, reprit-il avec un amer sourire. Croyez-vous que le régiment compte beaucoup de capitaines, avec 2 000 livres à leur disposition? Tâchez de vous suffire avec votre paye, jusqu'à ce que votre père se rabatte un peu de sa sévérité. Et si une balle vous emporte, vous laisserez encore une rente de 100 livres à votre femme. Croyez-vous donc que ma paye et 100 livres de rente puissent suffire à mes habitudes? S'écria Georges, exaspéré. Vous avez perdu la tête, Dobbin. 100 livres pour tenir mon rang dans le monde. Allons donc, c'est une plaisanterie. D'abord, il m'est impossible de rien changer à mes habitudes. Je ne puis me passer de mes aises. On ne m'a pas élevé à manger à la gamelle comme MacWhirter, ou à me nourrir de pommes de terre comme le vieil O'Dowd. Voudriez-vous aussi voir ma femme faire la lessive du soldat ou monter dans la charrette des bagages? C'est bien, dit Dobbin, avec une parfaite égalité d'humeur. Nous nous arrangerons pour lui procurer une meilleure voiture. Il faut, pour le moment, vous résigner au rôle de prince détrôné, Georges, mon garçon. Attendez avec patience la fin de l'orage. Ce ne sera pas bien long à passer. Que votre nom soit seulement dans la gazette, et je vous promets que le vieux papa se relâchera de sa sévérité. Dans la gazette, répondit Georges. Et à quel titre, je vous prie? Parmi les morts et les blessés, et l'un des premiers, très probablement. Allons, allons, répliqua Dobbin. Il sera assez temps de se lamenter quand les choses seront venues. D'ailleurs, vous savez, Georges, je possède quelques biens et me sens peu de disposition matrimoniale. Eh bien, je n'oublierai pas mon filleul dans mon testament, continua-t-il avec un sourire. La dispute en resta là, comme cela ne manquait jamais entre Osborne et son ami. Osborne s'en alla, en disant qu'il n'y avait pas moyen de se fâcher avec Dobbin. Il fut même assez généreux pour ne plus lui en vouloir de la mauvaise querelle qu'il lui avait cherchée. « Dites donc, Becky, » criait Rodden de son cabinet de toilette à sa femme qui, dans sa chambre, mettait la dernière main à sa toilette pour le dîner. « Quoi ?» reprit Becky d'une voix perçante, tout en jetant un coup d'œil à sa glace par-dessus son épaule. Elle avait mis la robe blanche la plus délicieuse et la plus fraîche qu'on pût voir. avec ses épaules nues, son petit collier, sa ceinture bleu clair, on l'eût prise pour la déesse de l'innocence entourée d'une auréole de bonheur. Je dis, que deviendra Mrs. Osborne quand Osborne partira avec le régiment ? Reprit Crowley sur le seuil de la chambre. Armé de deux brosses impitoyables, il chassait ses mèches rebelles sur le devant de sa tête, tout en admirant sa charmante femme à travers les broussailles de sa chevelure. « Ses yeux vont se changer en fontaine, » dit Becky. « Déjà, à plusieurs reprises, elle m'a étourdi de ses jérémiades à ce sujet. »« Et vous, vous en prenez à votre aise, il me semble, » dit Rodan, à moitié fâché du ton indifférent de sa femme. « Allons, mauvaise tête, » répliqua Becky. « Vous savez bien que je vous accompagne. » »« C'est fort différent pour nous autres, qui faisons partie de l'état-major du général Tufto. »« Nous n'avons rien à démêler avec les fantassins, » ajouta-t-elle, rejetant sa tête en arrière d'un air tout à la fois si comique et si séducteur que son mari ne put l'empêcher de l'embrasser. « Rodon, mon cher, pensez-y. Il ne serait pas mal d'avoir votre argent de Cupidon avant qu'il parte, » continua Becky en lui lançant un coup d'œil meurtrier. C'était George Osborne qu'elle décorait ainsi du nom de Cupidon. Déjà plusieurs fois, elle lui avait fait compliment de sa bonne mine et ne manquait jamais de se mettre à côté de lui quand il venait le soir faire sa partie d'écarté avec Rodon. Elle le traitait de dissipateur, de prodigue, le menaçait d'instruire Amy de ses inclinations perverses, de ses détestables habitudes. Prenant ses petits airs de charmante coquetterie, elle lui apportait un cigare et l'allumait elle-même, sachant d'avance les résultats de cette tactique par l'expérience qu'elle en avait faite autrefois sur Rodon Crowley. Quant à Osborne, il la trouvait gaie, vive, espiègle, distinguée, ravissante en un mot. Dans leurs promenades, dans leurs dîners intimes, les hommages, les applaudissements étaient pour Becky, et la pauvre Amy était condamnée au silence et à l'abandon. Mrs. Crowley bavardait avec Osborne. Rodon et Joss, quand ce dernier eut rejoint nos deux ménages, vivaient les bouteilles sans prononcer une seule parole. Qui se serait alors occupé de la pauvre Amelia ? En présence de son amie, Amelia en était venue à douter du pouvoir de ses charmes. L'esprit, l'entrain, les attraits de Rebecca lui causaient un trouble inexprimable. À peine une semaine de mariage écoulée, et George souffrait déjà de l'ennui et recherchait une autre société que la sienne. En vérité, l'avenir n'avait-il pas de quoi exciter son effroi? Comment, se disait-elle à elle-même, pourrait-il trouver quelque plaisir avec moi, pauvre et humble créature? Lui, si aimable, si séduisant. Déjà, quelle générosité de sa part de m'avoir épousée, d'avoir renoncé à tout pour se mettre à mes pieds. Mon devoir me disait de refuser ce sacrifice, mais je n'en ai pas eu le courage. Mon devoir me disait de rester auprès de mon père pour prendre soin de sa douleur et de ses vieux jours, et je ne l'ai pas écouté. Troublée alors, avec quelque raison, par la voix accusatrice de sa conscience, elle se souvint pour la première fois de l'abandon où elle avait laissé ses parents et se mit à rougir de honte. « Ah » continua-t-elle alors, « mon égoïsme est bien coupable de m'avoir fait ainsi oublier leur chagrin, bien coupable d'avoir forcé George à m'épouser. Je le reconnais, je ne suis pas digne de lui. Sans moi, il eût trouvé le bonheur, et pourtant j'ai fait tous mes efforts pour lui rendre sa liberté. Combien n'est-elle pas à plaindre, la pauvre petite mariée qui, après 7 jours au plus de mariage, se surprend au milieu de ses douloureuses pensées et de ses tristes aveux. Tel était pourtant le supplice qu'endurait Amelia. La veille de l'arrivée de Dobbin, par une soirée tiède et embaumée, d'une belle journée de mai, on avait laissé ouverte la fenêtre du balcon. George et Mrs. Crowley, appuyés sur la balustrade, contemplaient les plaines argentées de l'océan, tandis que Rodon et Joss faisaient à l'intérieur leur partie de tric-trac, et que la triste Amelia restait sur le grand fauteuil dans l'oubli le plus complet et sentait le désespoir et le regret se glisser dans son âme avec leurs amères douleurs. Une semaine à peine écoulée, tel était le présent. Quant à l'avenir, elle en détournait les yeux, elle avait peur de le voir, car il s'offrait encore à elle sous un plus sombre aspect. L'âme d'Amy avait trop besoin de protecteur et de guide pour oser fixer ses regards de ce côté, pour s'aventurer seule sur ce vaste océan. Un autre devait prendre le gouvernail pour elle. Elle ne savait qu'aimer et souffrir. Quelle soirée magnifique! Comme la lune resplendit au ciel! » dit Georges en poussant une bouffée de tabac qui s'éleva en blanche spirale. « J'adore cette odeur, » dit Rebecca. « Il embaume l'air, votre cigare. » Croirait-on que la lune est à 236 847 milles de la Terre, ajouta-t-elle avec un sourire sur les lèvres, en contemplant le disque aux clartés vacillantes. « J'ai bonne mémoire, comme vous voyez, n'est-ce pas ? Peu, toutes ces belles choses, nous les avons apprises chez Miss Pinkerton. Comme la mer est calme, comme il fait clair ce soir. Je crois, en vérité, que j'aperçois les côtes de France. » Et ses yeux brillants s'élançaient dans les ténèbres et plongeaient dans la nuit comme s'ils avaient pu en percer les voiles. « Vous ne savez pas ce que je compte faire un de ces matins, » reprit-elle en riant. « Vous avez peut-être entendu parler de mes talents comme nageuse. Eh bien, un de ces jours, quand la demoiselle de compagnie de ma tante Crowley, la vieille Briggs, vous vous la rappelez bien, cette femme à bec de corbin et à la chevelure clairsemée, enfin, un de ces jours, au moment où Briggs se mettra au bain, je m'en irai sous l'eau, la tirer par les pieds et la contraindre à une réconciliation entre deux vagues. Ne trouvez-vous pas mon idée sublime ? » Georges éclata de rire à la pensée de cette entrevue aquatique. « Quel tapage faites-vous à vous deux ? » cria Rodon en secouant les dés. Amelia, à moitié folle de douleur et retenant ses sanglots mal étouffés, se retira dans sa chambre pour y donner libre cours à ses larmes. Ce chapitre a été contraint, par les nécessités du récit, de faire une pointe en avant, puis de revenir en arrière, en suivant une marche fort irrégulière en apparence. Mais l'arrivée de Dobbin à Brighton, venant annoncer le départ de l'armée pour la Belgique, sous le commandement de sa grâce le duc de Wellington, était un événement d'un assez haut intérêt pour prendre le pas sur tous les menus détails qui forment le fond de cette histoire. On nous pardonnera, nous l'espérons, ce désordre nécessaire à cause de son peu de gravité dans ses conséquences. Et maintenant que la chronologie se trouve rétablie, nous allons rejoindre nos différents personnages dans leurs cabinets de toilette respectifs, où ils s'habillent pour le dîner, qui eut lieu, comme de coutume, le soir de l'arrivée de Dobbin. Par égard pour sa femme, ou dans sa préoccupation pour le nœud de sa cravate, Georges ne dit rien à Amelia des nouvelles que son ami lui avait apportées de Londres. Il entra cependant dans la chambre avec un air si important et tenant à la main la lettre de l'homme d'affaires d'une façon si solennelle que sa femme, toujours en défiance de quelque malheur, s'imagina que pour le moins toutes les calamités de la terre venaient de fondre sur eux. Elle courut toute tremblante au-devant de son mari et supplia son cher Georges de n'avoir point de secret pour elle. Son ordre de départ était-il venu ? Devait-on se battre la semaine suivante ? Ce n'était rien moins que tout cela, elle en était sûre. Le cher Georges éluda, par des réponses évasives, tout ce qui avait trait au départ pour l'étranger, et avec un mélancolique mouvement de tête, il ajouta « Non, Amy, il n'est pas question de tout cela. Mes inquiétudes sont pour vous, non pour moi. Les nouvelles que j'ai reçues de mon père sont fort mauvaises. Tous rapports sont rompus entre nous. Il me ferme sa porte, il nous livre à la pauvreté. Elle ne me fait point peur, Amy. Mais vous, ma chère femme, comment la supporterez-vous ? Tenez et lisez. » Et il lui présenta la lettre. Amelia fixait un douloureux et tendre regard sur le héros de ses pensées, grandi encore dans son imagination par la générosité des sentiments qu'il étalait. Puis, s'asseyant sur son lit, elle lut la lettre que Georges lui tendait, en se trappant dans une orgueilleuse résignation de martyr. Ses traits prenaient une expression plus calme et plus sereine à mesure qu'elle avançait dans sa lecture. L'idée de partager la pauvreté et les privations de l'objet aimé est loin d'être pénible pour un cœur de femme vivement épris. Amelia plaçait désormais tout son bonheur dans cette pensée. Puis, comme à l'ordinaire, elle fut prise d'un remords subit pour cette joie si intempestive, refoulant dans son âme ce bonheur bien innocent, elle dit avec calme « Oh, Georges, Georges, votre excellent cœur doit saigner cruellement de cette rupture avec votre père. » « Ah, bien sûr, » fit Georges, avec un air de crucifié. « Mais sa colère ne pourra tenir contre vous, » continua-t-elle. « Qui aurait le courage de vous en vouloir longtemps ? Il vous pardonnera, cher ami, et s'il ne le faisait pas, ce serait pour moi un chagrin de toute la vie. » Je me consolerai facilement des privations de la misère, ma pauvre Amy, reprit Georges. Mes inquiétudes sont toutes pour vous. Que m'importe à moi la pauvreté? Vanité à part, je possède assez de talent pour faire mon chemin. Oh, cela est sûr, dit sa femme, persuadée qu'à la fin de la guerre, son mari ne pouvait manquer d'être nommé général. Mon chemin est donc tout tracé, continua Georges. Mais vous, ma toute belle. Ah, je ne puis m'accoutumer à cette idée de vous voir privée de vos aises, de ce rang que ma femme était appelée à tenir dans le monde. Pensez que vous serez soumise à toutes les fatigues et les souffrances de la vie du soldat. Ah, cette idée m'accable et me tue. Amy, toute joyeuse d'être l'unique objet de la sollicitude de son mari, lui prit les mains, les serra dans les siennes, et la figure radieuse et souriante se mit à gazouiller les couplets d'une de ses romances favorites, dont l'héroïne, après avoir reproché à son bien-aimé ses froideurs répétées, finit par lui promettre de raccommoder ses culottes et de lui préparer son grog s'il est fidèle et tendre et s'il ne la délaisse pas. D'ailleurs, dit-elle après une pause, pendant laquelle elle semblait reprendre tout cet éclat de bonheur et de beauté qui sied si bien à une femme, « D'ailleurs, Georges, n'avons-nous pas la somme énorme de 2000 livres ?» Georges se prit à rire de sa naïveté, et ils descendirent pour aller se mettre à table. Amélia s'appuyait sur le bras de son mari, en fredonnant encore les dernières notes de sa romance. Elle avait l'esprit bien plus allègre et bien plus satisfait que les jours précédents. Le repas, au lieu de traîner comme à l'ordinaire, fut vif et animé. L'esprit de Georges, s'enflammant à l'idée de la campagne prête à s'ouvrir, avait secoué la première stupeur où l'avait jeté la lettre qui le déshéritait. Dobbin continuait son rôle de beau parleur et divertissait la compagnie par ses bavardages sur l'expédition en Belgique. L'objet principal devait y être les plaisirs, les fêtes et les toilettes. L'indiscret capitaine racontait que Mrs. la Major O'Dowd était dans tous les embarras de l'emballage, qu'elle avait serré les épaulettes neuves de son mari dans la boîte à thé, qu'elle avait mis sous une double enveloppe de papier gris son fameux turban jaune surmonté d'un oiseau de paradis, et qu'il reposait finalement dans la boîte en fer blanc dont la destination première était pour le chapeau à cornes du major. Cette brave femme avait la tête perdue de l'effet qu'elle se promettait de faire à Gand, à la cour du roi de France, ou à Bruxelles, dans les bals de l'armée. « Gand, Bruxelles !» s'écria Amélia avec un tressaillement subi. « Le régiment a donc reçu son ordre de départ, Georges. Ah, répondez-moi » En même temps, une expression d'effroi courait sur cette figure naguère si souriante, et instinctivement Amélia se serrait contre Georges. « Ne vous effrayez pas pour si peu, ma chère, » dit-il avec un air de bonne humeur. « Pour 12 heures de traversée, ce n'est pas la peine de vous bouleverser l'essence. D'ailleurs, vous viendrez avec nous, Amy. » « Et moi aussi je pars, » dit Becky à son tour. « Je fais partie de l'état-major. Le général Tufto a le béquin pour moi. N'est-ce pas, Rodon ?» Rodon fit ses gros éclats de rire ordinaires. William Dobbin devint tout rouge. « Elle ne peut nous accompagner, » dit-il. « Songez. » Il allait ajouter au danger, mais toute sa conversation pendant le dîner n'avait-elle pas eu pour but de prouver qu'il n'y avait rien à craindre ? Le silence seul vint à l'aide de sa confusion. « J'irai avec vous, » dit Amélia, d'un ton résolu et impératif. Georges, tout fier de sa détermination, demanda à l'aimable assistance si jamais on avait vu pareil grenadier en jupon de femme, et en même temps il assura à sa femme qu'elle ferait partie de l'expédition. « Mrs. O'Dowd vous servira de chaperon, » dit-il. Tant qu'elle avait son mari auprès d'elle, que lui fallait-il de plus ? Le départ, donc, n'avait plus rien de pénible. La guerre, avec ses dangers, apparaissait bien à l'horizon, mais d'ici là, il y avait au moins une distance de plusieurs mois. Cet intervalle permettait à la timide Amélia de goûter une joie aussi pure que si l'on eût déclaré la suspension définitive des hostilités. Dobbin applaudissait du fond du cœur à cet arrangement, car voir Amélia était pour lui le rêve de sa vie. Et, dans le secret de son âme, il se sentait heureux d'avoir bientôt à veiller sur elle et à la protéger. « Si elle était ma femme, pensait-il, elle ne partirait pas. » Mais Georges était le maître, et ce n'était point à Dobbin à lui faire la leçon. Rebecca, passant le bras autour de la taille de son amie, quitta enfin avec elle la table où ses graves affaires venaient d'être mises sur le tapis. Les messieurs, excités déjà par la plus folle gaieté, restèrent pour se livrer au plaisir de la boisson et faire la chronique scandaleuse du prochain. Dans le cours de la soirée, Rodin reçut un billet tout confidentiel de sa femme qu'il froissa et brûla sur le champ à la bougie. Nous avons heureusement pu le lire par-dessus l'épaule de Rebecca, et nous en faisons profiter nos lecteurs. « Grande nouvelle !» écrivait-elle. « Mrs. Bute est partie. Tâchez de vous faire donner ce soir votre argent par Cupidon. Demain, il sera en route selon toute probabilité. N'oubliez surtout pas ce dernier point. R. » Aussi, au moment où ces messieurs se disposaient à passer dans l'appartement des dames pour y prendre le café, Rodin tira Osborne par le bras et lui dit, de son air le plus gracieux, « Ah ça, mon cher, si cela ne vous faisait rien, je vous prierai de me donner cette petite bagatelle que vous savez. » Cela faisait bien quelque chose à Osborne, mais néanmoins, il lui remit une liasse de banknotes qu'il tira de son portefeuille et quelques billets à une semaine d'échéance pour compléter la somme. Cette affaire terminée, George, Joe et Dobbin s'assemblèrent en grand conseil de guerre, au milieu de la fumée des cigares, et on arrêta que le lendemain, on plierait ses tentes pour se mettre en marche sur Londres, dans la voiture découverte de Joe. Joe eût peut-être mieux aimé attendre à Brighton le départ de Rodin Crowley, mais Dobbin et George le forcèrent à se ranger à leur avis. Avec sa royale gracieuseté, il consentit à les ramener à Londres dans son équipage et commanda 4 chevaux de poste. Un homme comme lui ne pouvait pas moins faire. Le lendemain, après déjeuner, leur départ eut lieu avec une pompe toute seigneuriale. Ce jour-là, Amelia se leva de bonne heure et fit ses paquets avec une prestesse merveilleuse. Quant à Georges, il resta au lit, gémissant de l'avoir manqué du secours d'une femme de chambre. La pauvre enfant ne se sentait pas d'aise d'avoir pu ainsi se suffire à elle-même. Mais un sentiment pénible et vague torturait encore son âme à l'occasion de Rebecca. Qui ne connaît la jalousie féminine? Et malgré les tendres embrassements du départ, nous pouvons affirmer que parmi les vertus de son sexe, Amelia possédait celle-là au suprême degré. À côté de ces personnages dont nous venons de partager les allées et venues, n'oublions pas certains autres de nos vieux amis qui se trouvent aussi à Brighton. Miss Crowley, par exemple, et tout le cortège attaché à sa personne. Quelques maisons à peine séparaient Rebecca et son mari de celles où Miss Crowley était venue loger ses infirmités et son ennui. Malgré ce voisinage, la porte de la vieille dame leur était rigoureusement fermée. La consigne était la même qu'à Londres. Aussi longtemps que Mrs. Bute Crowley resta auprès de sa belle-sœur, elle eut soin d'épargner à sa très chère Mathilde les émotions d'une entrevue avec son neveu. Quand la vieille demoiselle faisait ses promenades en voiture, la fidèle Mrs. Bute était toujours à côté d'elle. Quand Miss Crowley allait prendre l'air dans son fauteuil roulant, Mrs. Bute marchait à sa droite, tandis que l'honnête Briggs soutenait l'aile gauche. Rencontrait-on par hasard Rodin et sa femme, en dépit des coups de chapeau respectueux et persévérants du capitaine, l'escorte de Miss Crowley passait près de lui avec une indifférence si glaciale et si dédaigneuse qu'il ne restait plus à Rodin qu'à s'arracher les cheveux ou à se casser la tête contre les murs. Pour ce que nous faisons ici, répétait souvent le capitaine Rodin d'un air mortifié, nous serions aussi bien à Londres. Un bon hôtel à Brighton vaut toujours mieux que la prison de tête à Chancery Lane, répondait sa femme toujours en belle humeur. Pensez donc aux deux aides de camp de M. Moses, l'officier du shérif, qui, toute une semaine, nous ont fait l'honneur de monter la garde à notre porte. La société dans laquelle nous vivons ici est insipide, j'en conviens. Mais Rodin, mon cher, M. Joe et le capitaine Cupidon sont encore préférables aux acolytes de M. Moses. Si quelque chose m'étonne, continua Rodin, en proie à un sombre désespoir, c'est qu'il ne m'ait pas relancé jusqu'ici avec leur mandat. Eh bien après, n'aurions-nous pas encore trouvé la manière de leur glisser dans la main, dit l'intrépide Becky, en insistant sur les avantages et les profits qu'ils avaient retirés de leur rencontre avec Joe et Osborne. Ce renouvellement d'amitié n'était-il pas venu fort à propos leur procurer un peu d'argent comptant? Ce sera tout juste de quoi payer la note de l'hôtelier, grommela le Horse Guard. À quoi bon le payer? Répondit son interlocutrice, qui ne restait jamais court. Le valet de Rodden, à l'instigation des maîtres, était resté en échange de bons procédés avec le personnel mâle au service de Miss Crawley. Il avait ordre de payer à boire au cocher toutes les fois qu'il le rencontrait, et c'est par là que le jeune couple était mis au courant des faits et gestes de la chère tante. Rebecca, de plus, avait eu l'heureuse idée de se sentir indisposée afin d'appeler auprès d'elle le même apothicaire qui donnait ses soins à Miss Crawley. Les informations leur arrivaient de la sorte assez complète et assez régulière. L'attitude hostile de Miss Briggs contre Rodden et sa femme était plutôt apparente que réelle. Au fond du cœur, elle penchait pour l'indulgence et le pardon. Son aversion pour Rebecca avait disparu avec ses motifs de jalousie. Elle ne se rappelait plus que l'inaltérable bonne humeur et les délicieuses plaisanteries de sa rivale. En résumé, toute la maison de Miss Crawley, à commencer par elle et Mrs. Firkin, la femme de chambre, murmurait en secret du despotisme et des envahissements de l'omnipotente Mrs. Bute. En toutes circonstances, cette digne mais impérieuse matrone voulait pousser trop loin ses avantages et abusait sans pitié de ses succès. Quelques semaines lui avaient suffi pour réduire la malade à une obéissance passive pour ses moindres volontés. Miss Crawley n'osait même plus se plaindre à Briggs et à Firkin de son état d'asservissement. Mrs. Bute mesurait avec un infatigable dévouement les verres de vin que Miss Crawley était autorisée à boire chaque jour. Ce contrôle était fort à charge à Firkin et au sommelier, qui perdaient ainsi jusqu'alors 3 sur la bouteille de Xérès. Mrs. Bute faisait même aux gens de l'office leur part de riz de veau, de gelées et de volailles. Le matin, à midi et le soir, elle arrivait auprès de Miss Crawley avec les abominables médecines prescrites par le docteur, et la patiente avait fini par les avaler avec une si touchante soumission que Firkin disait « À voir ma pauvre maîtresse prendre ses drogues, ne dirait-on pas un agneau ?» C'était encore Mrs. Bute qui décidait si la promenade se ferait en voiture ou dans le fauteuil roulant. En un mot, une jeune mère n'est pas plus attentive à dorloter son premier-né. La patiente avait-elle des velléités de résistance? Suppliait-elle pour un morceau de plus à dîner? Ou une médecine de moins à prendre? Aussitôt sa garde malade la menaçait de mort subite et Miss Crawley se rendait à une logique si pressante. « Il ne lui reste pas une étincelle de vie, » disait un jour Firkin à Briggs. « Voilà 3 semaines qu'elle ne m'a pas appelée vieille bête. » Mrs. Bute lui faisait déjà des ouvertures pour congédier l'honnête Firkin, M. Bowles, le gros sommelier, enfin Briggs elle-même, afin de substituer ses filles à tous ses mercenaires et de préparer la pauvre malade à sa translation à Crawley la reine. Mais hélas, un funeste accident vint tout à coup détruire ses projets et l'enlever au devoir dont elle s'acquittait avec un zèle si désintéressé. Le révérend Bute Crawley, son mari, en revenant un soir à cheval, avait fait une chute et s'était fracturé le col du fémur. La fièvre s'était déclarée avec tous les symptômes de l'inflammation et Mrs. Bute Crawley avait été forcée de quitter le chevet de sa belle-sœur pour courir à celui de son mari. Ce n'était pas toutefois sans avoir promis, avant son départ, de revenir auprès de sa chère amie aussitôt après le rétablissement de Bute. Elle avait laissé aux domestiques les instructions les plus pressantes sur les soins à donner à leur maîtresse. Mais à peine la voiture de Southampton avait-elle fait quelques tours de roue qu'une jubilation universelle régna dans la maison de Miss Crawley. On y respirait plus à l'aise. Depuis longtemps, on y avait joui d'une aussi grande liberté. Ce jour même, Bowles déboucha, sans crainte de surprise, une bouteille de Xérès pour lui et Mrs. Firkin. Ce soir-là, Miss Crawley et Briggs remplacèrent par la partie de piquet la lecture fastidieuse et monotone des sermons de Porteus. C'était comme dans les contes de fées où, d'un coup de baguette, il s'opère une heureuse et paisible révolution dès que le mauvais génie est mis en fuite. 2 ou 3 fois par semaine, Miss Briggs allait de grand matin prendre ses ébats à la mer et se transformer en océanide sous la robe de flanelle et le bonnet de toile cirée. Rebecca était, comme nous l'avons vu, au fait de ses habitudes, et sans réaliser contre Briggs sa conspiration aquatique et à l'aide d'un plongeon lui chatouiller la plante des pieds, elle résolut de dresser une embuscade et d'attaquer Briggs au sortir du bain, alors que toute fraîche et ragaillardie par ses ablutions, elle se trouverait en belle humeur. Becky fut de très bonne heure sur pied le lendemain, et apportant le télescope sur le balcon qui faisait face à la mer, elle le braqua dans la direction des baraques de baigneurs. Elle put voir de la sorte Briggs arriver, entrer dans sa cabine et se mettre à l'eau. Et elle était à son poste sur le rivage épiant sa proie lorsque l'océanide sortit de sa cabine et s'avança sur les galets. Il y aurait eu de quoi faire un charmant tableau de genre avec la plage et la troupe de baigneuses sur le premier plan et dans le lointain une chaîne de rochers et de maisons étincelantes au premier feu du soleil. Rebecca avait paré sa figure de son plus tendre et de son plus aimable sourire. Elle tendit à Briggs sa petite main blanche en allant au-devant d'elle. Briggs pouvait-elle repousser cette démonstration amicale ? « Ah, Mrs. Crowley, » fit-elle. Mrs. Crowley lui prit la main, la serra contre son cœur, puis, comme si elle eût cédé à l'entraînement de son émotion, elle jeta ses bras autour du cou de Briggs et l'embrassa avec une effusion pleine d'une apparente sincérité. « Ah, ma bien bonne amie, » dit-elle d'un ton si naturel que Briggs se mit incontinent à fondre en larmes et que la fille des bains en fut attendrie. Rebecca obtint sans peine de Briggs de longues et délicieuses confidences. Briggs raconta et commenta tous les événements accomplis chez Miss Crowley depuis la disparition subite de Becky jusqu'au présent jour. Elle couronna son récit par les détails de la retraite si inattendue et si désirée de Mrs. Bute. Les symptômes de la maladie de Miss Crowley, les moindres circonstances de son traitement médical, furent exposés par cette honnête fille avec l'ampleur et la complaisance que les femmes mettent toujours à s'étendre sur cette matière. C'est toujours avec un nouveau plaisir qu'elles causent entre elles de leur malaise et de leur docteur. Briggs suivit en cette occasion l'exemple des personnes de son sexe et Rebecca ne s'en plaignit point. Elle ne pouvait assez répéter combien elle était heureuse de penser que l'excellente Briggs, la fidèle Firkin, était restée auprès de leur bienfaitrice pour la soulager dans ses souffrances. La Providence avait droit pour ce seul motif à ses plus vives actions de grâce. Alors Rebecca, revenant sur sa conduite, lui faisait voir comment, malgré les apparences, sa faute était cependant bien naturelle et bien excusable. Pouvait-elle refuser sa main à l'homme qui avait trouvé le chemin de son cœur ? Pour toute réponse, la sensible Briggs éleva les yeux au ciel, poussa un soupir de sympathie, car elle aussi avait autrefois connu ses tendresses de cœur. Rebecca, en somme, n'était donc pas bien criminelle. « Ah, je n'oublierai jamais, » disait cette dernière, « que Miss Crowley a donné asile à l'orpheline délaissée. Non, non, bien qu'elle m'ait bannie de sa présence, jamais je ne cesserai de l'aimer. Ma vie est à elle. Sur un signe de sa part, je suis prête à lui en faire le sacrifice. Comme ma bienfaitrice, comme la tante de mon bien-aimé Rodden, chère Miss Briggs, Miss Crowley domine dans ma tendresse et ma vénération mes sentiments pour toute autre femme. Immédiatement après elle, mes affections s'adressent aux personnes qui lui donnent tant de preuves de fidélité. » Il n'y avait que cette astucieuse et intrigante Mrs. Bute pour traiter, comme elle l'avait fait, les cœurs dévoués à cette chère demoiselle. « Tenez, » continua Rebecca, « mon Rodden, qui est si bon, malgré la rudesse et la brusquerie de ses manières, m'a dit mille fois les larmes aux yeux qu'il bénissait le ciel d'avoir mis auprès de sa chère tante deux femmes, deux anges, comme l'excellente et dévouée Firkin, comme l'admirable Miss Briggs. Dans le cas où, à l'aide de ses menées ténébreuses, l'abominable Mrs. Bute, suivant les craintes encore trop bien fondées de Rebecca, parviendrait à écarter tous ceux qui avaient la confiance de Miss Crowley pour faire de cette pauvre femme la pâture des harpies du presbytère, Rebecca priait Miss Briggs de se souvenir que sa maison, toute modeste qu'elle était, serait toujours ouverte pour elle. « Chère amie, » s'écriait-elle dans un transport d'enthousiasme, « il est des cœurs pour lesquels le souvenir d'un bienfait est éternel. Toutes les femmes ne sont pas des Bute Crowley. Mais après tout, dois-je me plaindre d'elles ? Dois-je me plaindre d'avoir été l'instrument et la victime de ses artifices ? Puisque sans elles, je ne serais point devenue la femme de Rodden. » Alors Rebecca découvrit à Briggs les ruses et les fourberies de Mrs. Bute à Crowley la reine. Jusqu'alors, elle n'avait pu saisir les fils cachés de sa conduite, mais les événements actuels les lui faisaient toucher du doigt. Après avoir, par mille artifices, allumé une flamme réciproque, après avoir fait tomber deux innocents dans les filets qu'elle leur avait préparés, Mrs. Bute les avait conduits par l'amour et le mariage à la ruine la plus complète. C'était d'une vérité palpable, et tous ces stratagèmes sautaient aux yeux de Miss Briggs. Dans le mariage de Rodon et de Rebecca, Mrs. Bute était la grande, l'unique coupable. Mais en reconnaissant Becky pour une victime bien innocente des embûches de Mrs. Bute, Miss Briggs ne pouvait dissimuler à son amie son peu d'espoir de voir les affections de Miss Crawley se ranimer en faveur de Rebecca. Et l'éloignement de la vieille fille à pardonner à son neveu ce mariage inconsidéré. Sous ce rapport, Rebecca ne partageait point les idées de la demoiselle de compagnie et conservait bon courage. Miss Crawley refusait quant à présent tout pardon, soit, mais tôt ou tard elle finirait par se radoucir. Et d'ailleurs, d'autre part, qu'y avait-il entre Rodon et le titre de baronnet? Le maladif et souffreteux Pitt Crawley. Quelle faculté de médecine aurait osé répondre de lui? Avoir mis au grand jour les ténébreuses menées de Mrs. Bute, avoir attiré sur elle les soupçons, était une douce satisfaction pour Rebecca, et cette manœuvre ne pouvait d'ailleurs que tourner à l'avantage de Rodon. Rebecca, après une heure de causeries intimes avec Miss Briggs, ralliée désormais à sa cause, la quitta au milieu des plus tendres protestations d'amitié, et parfaitement convaincue que dans une heure au plus tard, Miss Crawley saurait par le menu tout ce qui venait de se dire. Après cette entrevue, Rebecca retourna en toute hâte à son hôtel. Déjà, la société des jours précédents s'y trouvait réunie pour un déjeuner d'adieu. À voir Rebecca et Amelia étroitement embrassées au moment de la séparation, on aurait dit deux sœurs tendrement unies. Mrs. Crawley tira grand parti de son mouchoir pour les effets dramatiques. Elle se suspendit au cou de son amie, comme si elle n'avait plus dû la revoir. Et de sa fenêtre, tandis que la voiture s'éloignait, elle agita son mouchoir, qui, du reste, était parfaitement sec. Après cette petite pantomime, elle vint reprendre sa place à table et mangea de très bon appétit pour une femme émue. Tout en épluchant ses crevettes, elle instruisit Rodon du résultat de sa promenade matinale. Ses espérances étaient en hausse. Elle fit partager sa manière de voir à son mari. C'était en général l'habitude, et, soit que ses opinions fussent tristes ou gaies, son mari finissait toujours par voir comme elle. « Allez, lui dit-elle, mon cher ami, vous mettre à ce pupitre et écrivez-moi une jolie petite lettre pour Miss Crawley, où vous lui ferez comprendre que vous êtes un brave garçon, et autre chose sur le même ton. » Rodon s'assit et écrivit fort couramment « Brighton, jeudi. Ma chère tante. » Mais ici s'arrêta tout court la verve imaginative du brillant officier. Il rongea le bout de sa plume en regardant la figure de sa femme, et elle ne put s'empêcher de rire à la mine piteuse qu'il faisait. Alors, se promenant en long et en large, les mains derrière le dos, elle lui dicta la lettre suivante. « Avant de quitter mon pays et de partir pour une guerre qui pourra m'être fatale... »« Comment ?» dit Rodon, un peu surpris. Mais bientôt, saisissant la finesse de la phrase, il fit de nouveau courir sa plume sur le papier en se livrant à de gros ricanements. « Qui pourra très probablement m'être fatal, je suis venu à vous. Pourquoi pas près de vous, Becky ? Près de vous, très grammatical, risqua le dragon. « Je suis venu à vous, reprit Rebecca en frappant du pied, pour vous faire mes adieux, comme à ma meilleure et à ma plus ancienne amie. Ah ! Avant de m'éloigner de vous, pour toujours peut-être, permettez-moi une fois encore de presser cette main qui a répandu sur moi tant de bienfaits. » « De bienfaits, » répéta Rodon en griffonnant les derniers mots et tout émerveillé de la facilité de sa femme. « Je vous fais une seule demande, c'est de ne point me laisser partir sous le poids de votre colère. Je partage le noble orgueil de ma famille sans le pousser pourtant aussi loin qu'elle à de certains égards. J'ai épousé la fille d'un peintre et ne rougis point de cette union. On m'enfoncerait plutôt dans le corps une épée jusqu'à la garde, exclama Rodon. Taisez-vous, imbécile, dit Rebecca en lui tirant l'oreille, et en regardant par-dessus son épaule pour voir s'il ne lui était pas échappé quelque faute d'orthographe. Partir ne prend pas deux à la fin, et il en faut un à colère. il corrigea ses mots en baissant pavillon devant l'éminente supériorité de sa commandante. « Je vous croyais instruite du succès de ma flamme, » continua Rebecca, car Mrs. Bute Crowley l'approuvait et l'encourageait. « Loin de me plaindre d'avoir épousé une femme sans fortune, je m'applaudis encore de ce que j'ai fait. « Chère tante, disposez de votre fortune comme il vous plaira. Vous en avez le droit, je n'y trouverai jamais à redire. Je voudrais seulement vous persuader que mon affection est pour vous et non pour votre argent. Je ne puis quitter l'Angleterre sans votre pardon. Permettez-moi de vous voir, je vous en conjure, avant mon départ. Dans un mois, une semaine, il sera trop tard, et je ne puis m'accoutumer à la pensée de quitter ce pays sans une bonne parole d'adieu de votre bouche. « Elle ne reconnaîtra pas mon style, » dit Becky. « J'ai fait à dessein des phrases courtes et coupées. » Cette missive officielle fut envoyée sous enveloppe à Miss Briggs. La vieille Miss Crowley se mit à rire quand Briggs, avec un air de mystère, lui présenta cette candide et simple requête. « Maintenant, dit-elle, que nous voilà débarrassés de Mrs. Bute, nous pouvons nous donner les plaisirs de la correspondance. Voyons, Briggs, lisez-moi ça un peu de votre plus belle voix. » Quand Briggs fut arrivé à la fin de l'épître, sa chère protectrice redoubla d'hilarité. « Vous êtes bête comme une oie, » dit-elle à Briggs, pour ne pas voir qu'il n'y a là pas un mot de Rodan, tandis que celle-ci, gagnée au ton de probité et de tendresse répandue dans tout ce message, se laissait aller à sa sensibilité naturelle. « Il ne m'a jamais écrit de sa vie que pour me demander de l'argent. Et puis ses lettres se trahissent toujours par les fautes d'orthographe et les ratures. Ce petit monstre de gouvernante le mène par le bout du nez. « Les voilà bien tous les mêmes, » ajoutait Miss Crowley à mi-voix. « Ils désirent tous ma mort et soupirent après mon argent. »« Que m'importe, en définitive, de voir Rodan ?» ajouta-t-elle après une pause et du ton le plus indifférent. « Je n'en irai ni mieux ni pis pour lui avoir donné une poignée de main. Qu'il vienne s'il veut, mais à la condition que cette entrevue ne tourne point au tragique. D'ailleurs, il serait aussi avancé de souffler sur une glace. » Mais, ma chère, il y a des bornes à tout, même à la patience, et je me refuse positivement à voir Mrs. Rodan. Sur ce point, mon parti est pris. Force fut bien à Miss Briggs de se contenter de ce message de réconciliation. Elle pensa que la meilleure manière de raccommoder la tante et le neveu était d'engager Rodan à faire sentinelle sur la falaise où Miss Crowley venait chaque jour prendre l'air dans son fauteuil. Ce fut là le théâtre de l'entrevue. Il ne serait impossible de dire si Miss Crowley éprouva aucun sentiment de tendresse ou d'émotion à la vue de son ancien favori. Elle lui tendit deux doigts avec un sourire de bonne humeur. À son air, on aurait dit qu'il s'était quitté la veille. Quant à Rodan, il devint rouge comme un homard. Il saisit par mégarde la main de Briggs, tant son trouble et sa confusion étaient à leur comble. Peut-être cette émotion avait-elle une cause intéressée. Peut-être venait-elle d'une affection sincère. Peut-être, enfin, ce bon neveu était-il frappé de l'altération que quelques semaines de maladie avaient portée dans les traits de sa tante. « La vieille fille m'a fait capot, » dit-il à sa femme, en lui racontant sa conférence. « Je me sentais tout drôle, tout chose, savez-vous. Je me tenais à côté de sa grande machine, savez-vous. Je l'ai conduite jusqu'à sa porte, où Bowles est venu au-devant d'elle pour la soutenir. » J'aurais bien voulu entrer, savez-vous. Vous n'êtes pas entré, Rodan ? Cria sa femme furieuse. Non, ma chère, que la peste m'étouffe, si je n'ai pas éprouvé un tremblement du diable à ce moment-là. Vous êtes un imbécile. Il fallait entrer quand même, et n'en plus sortir, dit Rebecca. Ne me dites pas de sottises, grogna notre gros guerrier. Il est possible que j'aie été un imbécile, Becky, mais ce n'est pas à vous de me dire cela. Et il lança un coup d'œil à sa femme, avec une expression hargneuse et une physionomie plissée par la colère. « Voyons, mon bijou, » dit Rebecca, en s'efforçant d'adoucir le courroux de son bien-aimé. « Tenez-vous prêt pour aller la revoir, qu'elle vous engage ou non à une nouvelle visite. » À cela, il répondit qu'il savait bien ce qu'il avait à faire, et la pria seulement de garder pour elle ses aimables compliments. Le mari froissé s'en alla sombre, silencieux et rancunier, passer le reste de la journée à l'estaminet. Vers le soir, il fut obligé, comme toujours, de rendre les armes à la haute et prévoyante intelligence de sa femme, en recevant la plus triste confirmation des inquiétudes qu'elle avait manifestées à propos de sa maladroite démarche. L'émotion avait sans doute été trop forte pour Miss Crawley, car elle resta longtemps accablée par ses rêveries, et c'était une fatigue dont la vieille demoiselle voulut même s'affranchir. « Comme Rodan est devenu vieux et épais, » dit-elle à sa compagne, « son nez s'est teint en rouge et sa personne tourne à l'obésité. Quel air de vulgarité il a pris depuis son mariage avec cette femme. Mrs. Bute me disait qu'ils se grisaient ensemble, et j'en ai la certitude maintenant. Il répandent une abominable odeur de genièvre. N'avez-vous rien senti? C'était à suffoquer. » Enfin, Briggs fit valoir que Mrs. Bute parlait mal de tout le monde, et qu'avec les faibles capacités d'une personne de son humble condition, elle la tenait pour une intrigante de la pire espèce. « Oh, vous avez raison, sa langue s'en prend à tout le monde. Mais j'ai l'intime conviction que cette Rebecca a donné à Rodan des habitudes d'ivrognerie. Tous ces gens de peu. Il a été très ému en vous voyant, madame, dit la demoiselle de compagnie. Et je suis persuadé que si vous réfléchissez au danger qu'il va courir, vous... Combien, Briggs, vous a-t-il promis pour être son avocat ? Cria la vieille dame prise d'un accès de fureur nerveuse. « Bon, voilà maintenant que vous allez vous mettre à pleurer. Je déteste les scènes. Je ne pourrai donc jamais avoir la paix. Allez-vous-en pleurer dans votre chambre et envoyez-moi Firkin. Non, restez, asseyez-vous là, mouchez-vous et finissez-en avec vos larmes. Bien, prenez maintenant ce qu'il vous faut pour écrire une lettre au capitaine Crawley. » La pauvre Briggs, avec une obéissance passive, alla se placer devant le buvard, dont chaque page portait les traces de l'écriture ferme et courante du dernier secrétaire de la vieille fille, Mrs. Bute Crawley. Écrivez. Mon cher monsieur, ou cher monsieur, cela vaudra mieux. Et dites que vous êtes chargé par Miss Crawley, par le médecin de Miss Crawley, M. Cramer, de l'informer que l'état chétif de ma santé ne me permet pas d'affronter de trop fortes secousses, qu'en conséquence, il m'est impossible d'avoir aucune discussion d'affaires, aucune entrevue de famille, que je le remercie d'être venu à Brighton et que je le prie de ne pas y prolonger son séjour à cause de moi. Ensuite, Miss Briggs, vous pourrez ajouter que je lui souhaite un bon voyage et que s'il veut prendre la peine de passer chez mon notaire à Gray's Inn Square, il y trouvera quelque chose qui ne lui fera pas de peine. C'est bien, en voilà assez pour le déterminer à quitter Brighton. » L'excellente Briggs écrivait la dernière phrase avec un sentiment de très vive satisfaction. Vouloir me mettre en état de blocus, le jour même du départ de Mrs. Bute, marmottait la vieille dame entre ses dents, c'est par trop fort. Briggs, ma chère, écrivez aussi à Mrs. Bute Crawley qu'il est inutile qu'elle revienne. Elle n'a qu'à rester chez elle. Je serai peut-être enfin la maîtresse chez moi. Je ne me laisserai pas à plaisir étouffer sous les drogues et noyer dans le poison. Ils sont tous acharnés à ma mort. Oui, tous, tous. » La vieille dame, écartant successivement tous les proches que l'intérêt seul avait appelés autour d'elle, finissait par se trouver dans un isolement complet. C'était alors des convulsions nerveuses, amenant un déluge de larmes et des lamentations sans fin. La dernière scène approchait pour elle dans la triste comédie de la foire aux vanités. Peu à peu, les lumières s'éteignaient, et bientôt elle allait disparaître derrière le rideau fatal. Le dernier alinéa où Miss Crawley engageait Rodan à aller voir son notaire à Londres, alinéa que Miss Briggs avait écrit avec un plaisir tout particulier, fut pour le dragon et sa femme une fiche de consolation, après le refus explicite de la vieille fille pour toute espèce de réconciliation. Ces lignes magiques produisirent donc tout leur effet. Rodan eut désormais le plus grand empressement à retourner à Londres. Sans ses gains sur Joss et les banknotes de George, Rodan n'aurait su comment payer sa dépense à l'hôtel. L'hôtelier ignora toujours combien peu il s'en était fallu qu'il n'en eût été pour ses frais. Comme un général expérimenté qui, dans la retraite, sauve ses bagages, Rebecca, après avoir prudemment emballé tous ses effets de quelque valeur, les avait expédiés pour Londres, sous la responsabilité du domestique de George. Le jeu fournit heureusement à Rodan les moyens d'être honnête et de partir avec sa femme et sa note acquittée le lendemain du départ de nos autres personnages. « J'aurais bien voulu revoir cette vieille fille encore une fois, » dit Rodan. « Elle est si épuisée et si changée que, j'en suis sûr, elle n'ira pas loin. » Je suis fort intrigué de savoir le montant des billets qui m'attend chez son notaire. Un billet de 200 livres. Oh oui, 200 livres au moins, n'est-ce pas, Becky? Pour se soustraire aux assiduités persévérantes des importuns, dont nous avons parlé plus haut, Rodon et sa femme n'allèrent point reprendre leur appartement de Brompton, mais descendirent dans un hôtel écarté. Le lendemain matin, Rebecca put apercevoir sur sa route les sudis visages en se rendant à Fulham, chez la vieille Mrs. Sedley, où elle allait faire visite à Amelia et à ses amis de Brighton. Ils étaient tous partis pour Chatham et de là pour Harwich, d'où le régiment devait s'embarquer pour la Belgique. L'excellente Mrs. Sedley était dans les larmes et dans la douleur. À son retour, Rebecca trouva son mari qui rentrait de Gray's Inn, où il avait été apprendre son sort. Il étouffait de colère. « Mordieu, Becky, dit-il, elle nous donne 20 livres pour tout potage. » Quoique la plaisanterie tournât à leur détriment, elle était des meilleures, et Becky ne put s'empêcher de rire de la déconvenue de Rodon.